En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors nous reprenons aujourd'hui le colloque qui a eu lieu à l'Académie nationale de médecine le 14 septembre 2012 sur de la mort à la vie. Et nous avions la chance de pouvoir profiter de l'expérience et du talent de Pierre Dex, qui connaît tout sur Picasso et avait accepté de parler de la mort dans l'œuvre de Picasso. Il l'a beaucoup écrit ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, il a eu le talent de le résumer. Et je suis sûr que vous avez profité de son résumé et que vous relirez les textes qu'il a écrits sur ce sujet.
Donc maintenant, on a le grand honneur d'avoir l'homme de Picasso. Bon, ça aurait été ridicule de vous appeler l'homme de Picasso parce qu'on a tellement dû vous le dire que vous avez l'habitude. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas Pierre Dex, vous l'avez sûrement lu. Pierre Dex a connu Picasso le jour où il a été emmené par Paul-Éluard. Vous voyez, tous ces gens, ils tournent en haut. Moi, j'aurais été emmené nulle part par Paul-Éluard. Mais lui est emmené par Paul-Éluard en 45 dans l'atelier de Picasso quand il vient de peindre la toile qui s'appelle Le Charnier. C'est un faux titre, c'était la toile que Picasso voulait opposer à Guernica. Et c'est une toile qui n'a eu strictement
c'est
aucun succès,
qui est
superbe, à laquelle Picasso tenait beaucoup. Et depuis, Picasso et Pierre Dex sont restés très, très liés. Alors, il prend un thème, malheureusement, on est obligé de continuer le même pour ceux que ça n'excite pas, qui s'appelle la mort dans l'œuvre de Picasso. Je vous donne la parole. C'est le thème, vous étiez au courant quand même. Il a beaucoup travaillé, il sait tout là-dessus.
Oui,
je
ne
me permettrai pas de vous interrompre deux minutes. Un mot quand même pour Anne Hendry. Je crois que j'ai assisté à une des premières présentations du Requiem pour une feuille morte. C'était au Théâtre des Champs-Élysées. Et Roland Petit dansait, enfin faisait danser sa troupe. Bon, entr'acte, mais personne ne se lève. Ce qui est rare, à l'entr'acte, tous les gens se tirent. Et puis, un certain temps après, le rideau se lève et là... Vraiment, mais alors, coup de passion, toutes ces machines qui continuent à tourner, puis au début, tout au début, un tout petit danseur qui faisait tourner rien du tout, délire de la foule. Ça, c'est un souvenir exceptionnel. Et puis, grâce à Micheline, grâce à votre mari, j'ai eu la chance de déjeuner deux fois, moi, à la salle à manger des directeurs. Il n'y avait pas de directeur, il y avait lui et moi, mais il n'y avait personne d'autre. Mais j'ai vu, et je crois que le thème représentait le roman du renard, non ? Il y avait une unité dans l'œuvre de... Voilà, parenthèse qu'on ferme, et on vous laisse la parole parce que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, et c'est une grande chance de pouvoir vous entendre.
Merci. Le rapport direct du jeune Picasso avec la mort date de ses 13 ans, dans l'exil de la famille malagaine à La Corogne sur l'Atlantique, quand il voit mourir, dans de grandes souffrances, sa petite sœur Conchita, de la diphtérie. À l'époque, c'est un drame, c'est inguérissable. On retrouvera ce rapport, sans savoir si c'est son choix, dans son premier grand tableau que vous voyez ici, qui est un tableau académique, pour ses 14 ans, et pour son père. Son père, qui est représenté en médecin, avait un magnifique portrait. Ce tableau s'appelle « Science et charité ». C'est vraiment une prouesse académique, mais qui montre que déjà à 14 ans, Picasso n'avait plus rien à apprendre de la peinture ordinaire. Tout autre sera l'effet sur lui du suicide de l'ami le plus intime de sa jeunesse, Casaremas, à Paris, en avril 1901. Ils y avaient débarqué à l'automne 1900, pour y voir la grande rétrospective de peinture de l'exposition universelle, ce qui jouera un grand rôle dans la formation de Picasso. Picasso y expose à nouveau un thème de mort à cette exposition dans la rétrospective espagnole qui s'appelle « Les derniers moments ». En fait, c'est mal traduit parce qu'en espagnol, il s'agit des derniers secours, c'est-à-dire l'extrême onction. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce tableau a passé pour disparu pratiquement toute la vie de Picasso, puisqu'on l'a redécouvert par radiographie en 1978, parce que Picasso l'avait recouvert sur sa grande toile bleue, qui est vraiment le chef-d'œuvre de sa jeunesse, la vie. Et c'est comme ça, toujours avec Picasso, vous avez des disparitions, des peintures qui sont recouvertes, et là, c'est tout à fait significatif que la peinture par laquelle il figurait à l'exposition de 1900, quelques années plus tard, puisque la vie date de 1903, il l'a recouverte carrément par un tableau qui n'avait aucun rapport. Mais revenons à Casarremas. Picasso et lui fréquentent un groupe de jeunes modèles à Paris, pas farouches, et Casarremas tombe amoureux de la pire coquette qui s'appelait Germaine. C'est un désastre, et à la fin de l'année, Picasso le ramène à Malaga, tout à fait abattu. Là-dessus, Picasso part pour Madrid, où il va fonder une revue, à 19 ans, avant de préparer sa grande exposition chez Vollard pour l'été. Il y apprend que Casarremas s'est suicidé le 17 février 1901, après avoir tenté de tuer Germaine. Aucune trace dans son œuvre, alors, toute entière tournée vers son exposition sur laquelle je reviendrai. 64 ans plus tard, au commencement de mon travail avec lui sur le catalogue de son œuvre de jeunesse, en 1965 donc, Picasso va me donner les éléments qui vont me permettre de retrouver le procès-verbal du suicide. Il me révélera à cette occasion les tableaux toujours inconnus, peint pour la mort de son ami, mais seulement à la fin de l'été 1901, après le décrochage de son exposition chez Vollard. Vous voyez que ça n'a aucune espèce de rapport avec le premier, et c'est le tableau de ce qu'il y avait à l'exposition chez Vollard, c'est-à-dire des couleurs pures, d'une extrême violence, comme même les nabis n'en faisaient pas, et une mise en scène brutale, qui fait penser déjà à Van Gogh, alors que Picasso avait dû juste entrevoir quelques peintures de ce dernier. L'exposition chez Vollard, qui précède ceci donc, avait réuni 60 tableaux, peints à la va-vite, dans ces couleurs que vous voyez, extrêmement pures et brutales, aucun rapport avec la période bleue qui suit. Les tableaux de chez Vollard ne sont connus que par la diffusion des hectachromes après 1960, et par mon catalogue de l'œuvre de jeunesse en 1966. Jusque-là, on pensait que toute la période nouvelle de Picasso était bleue. C'est tout à fait l'inverse qui s'est produit. Il y a eu cette rupture, et c'est pas la dernière, dans l'art de Picasso. Il n'avait jamais montré à personne ces tableaux de Casarremas, puis les a retrouvés dans son déménagement à Notre-Dame-de-Vie. Et je me souviens, bientôt 50 ans après, du choc que j'ai ressenti face à celui-ci, à la violence des couleurs et qui modèle le visage de Casarremas devant une bougie. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, car la règle voulait que je profite de la révélation pour sortir mon Kodak et photographier les révélations. Comme je n'étais pas sûr de que Picasso me les remontrerait, j'ai fait ce que j'ai pu, et la première reproduction de ce tableau a été légèrement amputée sur la droite, parce que je ne suis pas un professionnel. Pourquoi Picasso avait-il gardé durant 60 ans cette peinture d'extrême avant-garde en 1901, mais trop intime? Je pense que c'est à cause justement de ce côté d'intimité et aussi pour une raison technique qui voulait que pratiquement jusqu'au début des années 60, les reproductions de ces couleurs soient très difficiles et réservées à quelques-uns. C'est l'arrivée des hectachromes au début de 1960 qui a tout bouleversé et qui a fait voir que l'exposition chez Vollard contenait 60 peintures de ce type, pratiquement jamais vues, sauf le portrait de Cocchio, qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Nous avons donc en face de nous le premier grand tournant dans l'art de Picasso. Il a pris, on remarquera, le temps de réflexion après la nouvelle du suicide pour pratiquer cette rupture fondamentale. Il va me dire, c'est en pensant à Casarremas que j'ai commencé à peindre en bleu. Cet improvisateur de génie est d'abord à même pas 20 ans, qu'il n'aura qu'en octobre, un adolescent de profonde réflexion et retour sur soi. Autant il s'était enivré des plaisirs de Paris et des découvertes extraordinaires de modernisme que la ville lui offrait, autant il savait déjà prendre du recul, rompre avec le succès, pour passer à une toute autre peinture. Et carrément, il va aller chercher l'envers de la belle époque, dès après la secousse de la mort de Lautrec à l'été, en peignant, s'il vous plaît, les prostituées déchues, vénériennes, qu'on enfermait à la prison de Saint-Lazare, c'est-à-dire exactement l'envers de son exposition chez Vollard. Il parle avec le spécialiste, le docteur Julien, qui vient de publier des statistiques affolantes sur l'expansion des maladies vénériennes. Il me dira, c'est la génération d'avant nous, Lautrec Gauquin, qui attrapait la vérole. Et c'est là, bien sûr, l'adieu à sa peinture sentimentale. Ça n'empêche pas, en cet automne, une grande toile bleue, mais allègre tout de même, célébrant l'enterrement de Casaremas, qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Comme vous pouvez voir, cet enterrement est plutôt gai. Malgré les apparences, il y a les pleureuses en bas, mais en haut, bon... Et ça, c'est la façon aussi de Picasso d'exorciser, en quelque sorte, la douleur, la peine de passer à autre chose. Sautant plusieurs années, pour franchir la période rose, illuminée notamment par les amours d'Arlequin, sautant donc à la fin 1905, début 1906. Picasso peint alors son chef-d'œuvre « La famille d'Arlequin » avec l'errance d'une troupe d'acteurs dans son Andalousie natale, mais c'est aussi une conclusion, parce que c'est l'époque de ses premières relations avec Gertrude Stein, ses rencontres avec Derain et Matisse, et le choc produit par la révélation du bain turc au salon d'automne, bref, toute une série d'événements qui vont l'obliger très vite à reconsidérer tout ce qu'il a peint jusque-là. Et il va peindre son adieu à sa peinture qu'il appelle sentimentale, de la façon qui vraiment n'est qu'à lui, avec la gouache de la mort d'Arlequin, où il réunit les personnages de la période rose devant le héros mort. C'est bien l'adieu à sa peinture qu'il dira sentimental, un adieu complet pour lui, avec des personnages qui lui sont chers dans cette toile, mais quelque chose comme une sanctification. Adieu donc supplantant la rupture, et une rupture de quelle violence, puisque vous savez que, commencé un an plus tard, cela aboutit aux Demoiselles d'Avignon. J'insiste sur le côté interne des relations entre Picasso et son art. Ça ne regarde pas les femmes de sa vie. La Madeleine, comme il disait, le modèle de la maternité rose qui célèbre l'enfant que j'ai failli avoir avec elle, comme il disait aussi, Madeleine dont il ne me révélera le portrait qu'en 1968, ayant attendu la mort de Fernande qui avait succédé à elle, et commis le crime aux yeux de Picasso d'avoir publié un Picasso et ses amis. C'est-à-dire que comme ça, Picasso traitera toujours son art en fonction de problèmes qui lui sont propres et non pas en fonction de l'histoire de l'art. Ça se passa aussi hors des copains qu'il a alors, comme Max Jacob et même assez longtemps Apollinaire. Au sortir de sa période sentimentale, comme il disait, Picasso cherche des complices en modernité. Il va les trouver chez Gertrude Stein et chez son frère, puis chez Derain, dont on oublie trop qu'en 1905-1906, il était à l'avant-garde avec Matisse et qui a été vraiment alors pour Picasso un ouvreur de pistes, surtout après son retour de ses découvertes à Londres. Le cubisme exclut les sentiments. Picasso, nous n'aurons aucun portrait d'Eva, son grand amour, sauf les abstractions dédiées à Majoli, et après la révélation du peintre et son modèle de 1914, mais seulement quand Picasso sera mort. La mort prématurée d'Eva, fin 1915, a été pour Picasso un choc énorme, parce que Eva était déjà malade depuis très longtemps, et c'est là qu'il va peindre le grand Arlequin, référence à l'Arlequin de 1906, 10 ans plus tard donc, mais un Arlequin démesuré, violemment, cruellement cubiste, qui toise les désastres et les tragédies de la guerre de 14-18, d'autant plus cruelle et meurtrière pour Picasso qu'elle a frappé très gravement ses amis Braque et Apollinaire. C'est-à-dire que Picasso se sert de sa peinture pour transcender ce qu'il juge l'horreur du monde à dénoncer. Matisse, en le découvrant, le dira supérieur à tout ce que Picasso avait peint. C'est au cours de sa période de nouvelle rupture avec sa peinture cubiste, dans un retour au classicisme rénové, où il chante Olga, sa première épouse, que la mort va revenir dramatiquement dans son art, avec en 1925 celle de son ami de jeunesse, le peintre Pichot, qui, pour son malheur, avait épousé Germaine. La grande toile de la danse, sortie au départ d'un voyage à Monte Carlo, où Olga avait espéré pouvoir reprendre contact avec le monde de sa jeunesse, est devenue donc un enterrement de Pichot, dont vous voyez l'image à droite de la toile. L'exaltation des rythmes déchaînés se heurte à son ombre démesurée, comme s'il y avait deux mondes côte à côte, le monde de la danse, de la frénésie, des danses nouvelles, etc., et l'ami de jeunesse qui vient de mourir. Les tensions accrues avec Olga, mêlées à celles de la crise de 1929, lui arrachent en 1932 des dessins et gravures sortis du retable de Grunewald à Isenheim, qui vient d'être restauré 4 années après sa réalisation. Voilà. Mais il y a toute une série. On en prend une parce que... La violence de son regard sur la mort s'y déchaîne. Elle est bientôt relayée par d'autres violences qui viennent de l'actualité. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, en quoi il a tout de suite vu un drame et une menace. Par paradoxe, l'Espagne devient à ce moment-là une république et Picasso y emmène Olga et leur fils Polo. Mais 2 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est la guerre civile, le retour de cette Espagne noire que Picasso est, entre dans sa vie sentimentale au même moment d'Ora Maar, ardente gauchiste, qui va contribuer à la radicalisation politique de la peinture de Picasso. Sur une commande du gouvernement républicain pour l'exposition de 1937 à Paris, la grande toile qui devient Guernica sort d'un des premiers bombardements massifs et de civils d'une ville par l'aviation nazie le 28 avril 1937. Ça s'était déjà produit à grande échelle avec les avions japonais, mais là c'était une première en Europe. Picasso dit tout de suite l'horreur de la situation avec la mère pleurant son enfant mort dans la maison Espagne dévastée. Le couple de la corrida est là, avec le cheval blessé à mort qui emplit le bas de la toile, mais le taureau aussi, qui se détourne de ce massacre inhumain. Comme l'avait fait Goya, Picasso fustige la guerre étrangère, ignoble. Cela se retrouvera dans toute la période qui va suivre, avec des natures mortes d'une extrême violence, comme celle-ci. Cette peinture va hanter toute l'étoile de l'occupation, et elle trouvera son accomplissement à la fin de la guerre, à l'automne 1945, avec la grande toile qu'on appelle faussement le charnier.
Qu'on appelle faussement le charnier?
Oui.
Parce que c'est quoi le vrai titre?
Le titre n'est absolument pas de Picasso et la déforme complètement. Si vous la regardez attentivement, vous voyez qu'il ne s'agit pas du tout d'un charnier, mais d'une scène vivante de massacre avec le père torturé, la mère tuée et le bébé aussi, et un repas abandonné. C'est donc une sorte de saisie de ce qui se passait sous l'occupation, et Picasso l'appelait « mon massacre ». C'est devant elle que j'ai rencontré Picasso sur sa demande en novembre 1945. Il savait par Paul Éluard que je rentrais du camp nazi de Mauthausen et il a voulu voir simplement l'effet que ce massacre, comme il l'appelait, pouvait produire sur quelqu'un comme moi. Il m'a donc fait monter dans son atelier de la rue des Grands Augustins. Le charnier emplissait tout le mur du fond. Je suis tout de suite entré, noir et blanc, n'est-ce pas, la reproduction le montre mal. Je suis tout de suite entré dans ce massacre d'une famille par l'ennemi, avec le père allongé comme le guerrier de Guernica. Ses mains liées descendent dressées vers le ciel, disent qu'on l'a torturé. Le repas abandonné dont j'ai parlé dit au contraire que tout a été abandonné dans la terreur. Picasso me montrait ainsi cette toile parce que secrétaire du ministre Charles Tillon, alors du gouvernement du général de Gaulle, j'étais l'organisateur de fête de l'exposition du Parti communiste Art et Résistance qui allait s'ouvrir en 1946. Je n'ai compris qu'ensuite que le parti qui était alors pour l'exaltation de l'optimisme désapprouvait cette grande œuvre, et il le fit dire par Aragon, qui dans la préface à cette exposition s'en prit aux grands peintres qui ont vu la mort et non pas ce qui de la mort se lève. Le Charnier est donc resté hors des musées français. Il a été vendu à un collectionneur américain en 1954. Je rappelle, Picasso l'appelait le massacre. C'est ainsi qu'est née fin 45 notre amitié. Picasso avait commencé en même temps une autre toile de deuil dédiée aux Espagnols morts pour la France, déjà bien trop oubliée. Alors que les premiers chars de la colonne Leclerc, entrés à Paris en août 1944, étaient conduits par des Espagnols réfugiés en France. Picasso le dira tout aussi durement avec sa toile qui suit, en 1946-47, dédiée aux Espagnols morts pour la France, bientôt oubliée par tout le monde alors, avant qu'elle soit remise par François Mitterrand aux Espagnols à la fin du XXe siècle. Ce Picasso-là a été obscurci par les idées de Sartre sur l'engagement politique qui avait alors cours. Ce n'est pas parce qu'il a donné son adhésion au Parti communiste que Picasso réalise ses peintures. Elles sortent de la transcendance qu'il n'a cessé de demander à son art. Il veut, comme avant lui Goya, transcender par son art la violence inhumaine propre au XXe siècle dans lequel il vit et emporter mémoire pour le monde qui survivra. Il est du camp des victimes, à qui il dresse des monuments. Notre amitié a été renforcée par le fait que j'ai conduit en 1948, après le congrès pour la paix de Wrocław en Pologne, Picasso à Auschwitz, où je lui ai servi de guide. Ensuite, parce que j'ai publié dans les lettres françaises à la mort de Staline, son portrait de Staline qui fit le scandale qu'on sait. Je le raconte pour rappeler que Picasso a longtemps fait passer son art au-dessus de tout le reste, dans le Charnier comme dans Guernica, a mis à l'épreuve l'inhumanité propre au XXe siècle. Le portrait de Staline a donc été pour nous un tournant, pour lui aussi, alors que ce n'est pas un portrait méchant, c'est un portrait hors de l'adoration, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait le scandale que l'on sait. Cette horreur de la guerre conduit Picasso à faire attention à tout ce qui se passe de terrible, et s'est porté à l'extrême lors de la crise entre les États-Unis et Cuba, fin 1963. Cuba appartient à l'histoire de sa famille. Son grand-père maternel, Francisco Picasso Guardeño, dont il a repris le nom pour son étrangeté en espagnol avec les deux S, était parti pour Cuba à la fin de sa vie, abandonnant femme et enfant, si bien qu'il ne l'a jamais connu. La crise provoquée par la présence des fusées soviétiques menace à l'automne 1962 de nouveau la paix du monde. Alors Picasso convoque dans sa peinture tour à tour l'enlèvement des Sabines de David, le massacre des innocents de Poussin, afin de dire son horreur du massacre peut-être atomique qui se prépare, et puis le comble de la violence dans son art éclate une fois le danger passé dans cet enlèvement des Sabines repris d'une façon délirante et de violence extrême du début 1963. La femme victime qui attend la mort au premier plan symbolise tout ce que Picasso craint de la guerre et de son retour. Picasso demande à son art de conjurer cette horreur. Les années passent, je l'ai vu au printemps 71, très en forme. Il m'avait montré alors sa suite de grandes gravures de Degas dans la maison Tellier, les figues du bordel la guichant de toutes les façons possibles ou discutant entre elles. Degas y est toujours un voyeur imperturbable. Et n'oubliez pas que Picasso a 90 ans et que ce sont des gravures de grand format réalisées au cuivre directement. Un an plus tard, à mon arrivée dans le Midi, fin juillet 72, j'ai eu tout de suite rendez-vous avec lui. J'étais arrivé dans mon catalogue du cubisme au tournant produit par les papiers collés fin 1912. Et il brûlait d'impatience de voir les reproductions que je lui apportais. Ça a été notre plus longue séance de travail, presque 3 heures. Je craignais de l'avoir fatigué, C'est lui qui continuait à analyser ses papiers, à les revivre littéralement devant moi. Il me dit, c'est peut-être là que nous sommes allés le plus loin, Braque et moi. Comme je l'ai dit, il me conduisit ensuite dans un de ses ateliers, contigu à la salle de séjour, un petit atelier où nous ne pénétrions quasiment jamais. Il était laissé dans une demi-obscurité. Là, il me dit, j'ai fait un dessin hier, je crois que j'ai touché là à quelque chose. Ça ne représente pas rien de déjà fait. Ça, c'est lui qui le dit. J'ai compris qu'il avait dû avoir pour la première fois un malaise et qu'il avait eu le réflexe de se dessiner, de dessiner sa peur. C'est là, je l'ai appelé pour le publier son autoportrait devant sa mort, et je crois que c'est exactement ce qu'il a ressenti. La dernière fois que nous sommes vus, au début d'octobre, soit 3 mois plus tard, je venais le voir pour lui annoncer que le Parti communiste mettait fin aux lettres françaises. Il me donna, en guise d'ultime collaboration, la photo signée de sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch, le grand violoncelliste soviétique qui venait d'être expulsé et que Picasso venait de rencontrer publiquement. Pour la première fois, Picasso n'avait pas été à l'heure de notre rendez-vous. Quand il est arrivé, très fatigué, j'ai compris que c'était vraiment la fin. Au moment de notre départ, il me ramena dans le petit atelier. L'autoportrait, étalé en haut d'une chaise longue, nous faisait face. Il me prit par la main. Je crois que j'ai touché là à quelque chose. J'y ai lu un adieu. Il avait toujours cru l'art plus fort que la vie. Il voulait, à ce moment ultime, qu'il fût plus fort que sa propre mort. La mort, depuis son adolescence, a toujours été partie intégrante de son art. Ce qu'il faut affronter de pire par l'art, comme le montrait l'histoire de la peinture occidentale, mais aussi savoir dépasser, voir plus loin. Picasso était sa peinture, comme ses dessins, ses gravures et ses sculptures. À chaque fois, il s'y mettait tout entier. Au cours de nos marches vers Valerie 153-54, où il habitait comme quelqu'un du lieu, comme un homme de Valoris. Il n'y avait pas la télévision, c'est seulement après le film de Clouseau que son image a commencé à être répandue. Et en ce temps-là, je marchais avec lui dans les rues de Valoris, et il m'arrivait de découvrir soudain qu'il n'était plus là. Ça voulait dire qu'il avait une idée de son art en tête. Je me hâtais de le reconduire à son atelier du Fournas et de l'y laisser. Nous avons donc affaire avec lui à une vie tout entière dans son art. La mort en faisait partie depuis la perte de la petite sœur pour ses 13 ans.
Nous avons donc eu la chance de pouvoir écouter Pierre Dex dans La mort de l'œuvre de Picasso. C'est un thème qui, vous le devinez, il connaissait parfaitement. Et c'est un texte que vous pouvez relire parce qu'il l'a réécrit plusieurs fois. Il a été un des rares intervenants à connaître Picasso peu de temps avant sa mort. Et donc, nous avions ce jour-là à l'Académie un vrai témoin des dernières œuvres et du dernier Picasso dans ses dernières peintures.